pour situer l'approche qui est celle de la perspective hébraïque et juive, en fait, rabbinique depuis deux millénaires à peu près, disons qu'on se fonde sur, d'abord, comme dans les autres monothéismes, tu vois, les autres spiritualités constituées, sur une hypothèse cosmologique et anthropologique. Le point commun entre tous les monothéismes, c'est que nous sommes dans un monde qui a été créé, et qu'il y a donc un créateur. Il s'agit bien de création et non pas de fabrication. Et d'autre part, en ce qui concerne l'anthropologie, il en résulte donc que l'être humain n'est pas seulement une entité psychosomatique, mais une réalité spirituelle. C'est à la fois un être de nature, qui participe de fait, comme tous les vivants, de l'ordre naturel, mais c'est aussi un être surnaturel, en ce sens précis, non pas qu'il est doté de pouvoirs magiques, mais qu'il est capable de s'arracher au déterminisme, parce qu'il est doté d'un libre arbitre, d'une conscience et d'un sens des responsabilités, donc d'une conscience morale qui ne se confond pas non plus avec l'ensemble des interdits sociétaux intériorisés à l'occasion des processus éducatifs ou des différents processus de socialisation. D'autre part, c'est évidemment un être de passion, mais aussi un être de raison, et aussi et surtout un être d'intuition. Et ça, c'est un point très important, parce que dans la philosophie occidentale, rares sont les philosophes qui ont accordé un statut positif à l'intuition. Et au XXe siècle, il y a surtout Max Scheler, Guy Bergson, et bien entendu, la plupart des théologiens qui s'inscrivent dans le commentaire de la tradition prophétique. J'insiste beaucoup là-dessus. La notion de religion n'existe pas en hébreu. Il y a par contre un terme qui est caractéristique de ce qu'on appelle ensuite en traduction religion, c'est le mot da'at. Da'at vient du verbe la'at qui veut dire connaître. Donc en fait, on parle de connaissance. C'est une connaissance. C'est une connaissance qui a ses fondements dans la révélation. En hébreu, it galouyot, la révélation, là aussi, c'est une traduction approximative, parce qu'en hébreu, la it galouyot indique un processus de dévoilement, donc un de dévoilement de l'infini connaissant en direction de l'être humain capable d'accéder à cette connaissance supérieure. Et ça, c'est véritablement le canal de la prophétie qui rend compte de tout cela. La révélation dans le contexte de l'hébraïsme et du judaïsme est d'abord une révélation qui s'adresse à Israël. Et de ce point de vue-là, Israël est dépositaire d'un enseignement premier, qui est un enseignement universel, et qui se fonde sur la perspective qu'on appelle, un peu d'un mot un peu technique, le monanthropisme, c'est-à-dire fondamentalement la conviction qu'il y a une unité de l'espèce humaine. Donc c'est une perspective qui est fondamentalement anti-raciste et anti-racialiste. Il y a une unité profonde de l'espèce humaine, en dépit des diversités culturelles. De ce point de vue-là, j'ai parlé d'universalisme, et là il faut ajouter quelque chose d'important. L'hébraïsme et le judaïsme définissent un universalisme que je qualifierais de différentialiste, c'est-à-dire que ce n'est pas un universalisme dont la finalité est d'amener l'humanité entière à adopter les mêmes vues, puisque dans l'économie du Premier Testament, on a plusieurs révélations. Il y a la révélation individuelle au patriarche, mais il y a aussi la révélation qui est aussi une forme d'alliance avec le personnage de Noé, qui est doté de ce qu'on appelle les lois noachiques, c'est-à-dire les grands principes de moralité qui sont destinés à l'humanité entière. Et puis, par la suite, on a effectivement la fameuse théophanie du Sinaï, où le peuple hébreu reçoit ce qu'on appelle ordinairement les 10 commandements, et qui est en fait à l'origine à la fois de ce qu'on appelle la loi écrite et la loi orale. Donc la loi écrite, c'est effectivement l'ensemble des 10 paroles, avec le narratif biblique tel qu'il nous est parvenu à travers le canon. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle la loi orale, il s'agit précisément, comme vous m'invitiez à y répondre, de toute la tradition exégétique et herméneutique. Donc la tradition exégétique et herméneutique a autant d'importance que la loi écrite. Et du reste, en hébreu, on ne parle pas non plus d'écriture, les écritures, on parle de lecture, en hébreu la mikra. Pourquoi cette insistance sur le fait qu'il s'agit d'une lecture et non pas d'une écriture? Parce que la tradition herméneutique du judaïsme considère que les textes sont porteurs de signification, mais que le rapport du lecteur au texte est un rapport dynamique, en sorte que le sens est toujours susceptible de jaillir de lectures qui sont des lectures renouvelées. Et du reste, la perspective fondamentale, encouragée en tout cas par l'éducation, les chaînes de transmission, C'est ce qu'on appelle le chidouche, c'est-à-dire le renouvellement possible du sens. Donc on est très loin d'une tradition qui serait au fond contrainte par des présupposés très établis, susceptibles de constituer des instructions rigides. On est au contraire dans une pluralisation du sens. Et c'est ce qui explique la très grande richesse et la très grande stratification de la tradition herméneutique. L'herméneutique courante, elle se fonde sur l'éducation qui est donnée aux enfants, et l'étude, au fond, est parmi les 613 commandements le commandement principal, en réalité. Et d'autre part, quand on parle des 613 commandements, c'est encore une vue de l'histoire, voire de l'histoire antique, parce qu'en réalité, les 613 commandements ne sont observables que dans un contexte où, dans la vision juive classique, le temple de Jérusalem existe. Par conséquent, un certain nombre de commandements ne s'appliquent pas, non seulement en l'absence de temple, et qui plus est, en dehors de la terre d'Israël. Parce qu'il y a des lois qui sont aussi les lois de la terre, comme par exemple, pour ne donner qu'une illustration, ce qu'on appelle la loi du repos de la terre, qui fait que tous les 7 ans, la terre est au repos. Donc les agriculteurs ne cultivent pas la terre. Aujourd'hui, c'est de nouveau une loi qui est fondamentalement observée. Maintenant, il y a une autre dimension importante, c'est la notion de ce qu'on appelle la Torah, qu'on traduit généralement par loi, mais en réalité, Torah est un mot qui comporte le mot or, qui veut dire lumière. C'est une instruction lumineuse. C'est une instruction lumineuse du fait de cette stratification dont le substrat, comme on l'a dit, est prophétique, avec l'idée d'une révélation progressive. Ce qui m'amène à conclure rapidement ce bref exposé, avant d'en venir, comme on le fera tout à l'heure, sur le texte qui nous intéresse ici, sur la problématique messianique, au fond. La dimension messianique est une dimension vectrice de la pensée hébraïque et juive, à travers les figures prophétiques, les figures patriarcales et matriarcales, parce que j'entendais tout à l'heure le thème « Dieu est-il sexiste ?». En fait, il y a une grande importance des figures féminines dans la tradition biblique du judaïsme. Et enfin, la notion de figure messianique intéresse y compris les figures qui sont porteuses de formes ultérieures, plus tardives, de la révélation. Et ça intéresse évidemment les relations entre judaïsme, christianisme et judaïsme et islam. Voilà ce qu'on peut dire.
Parfait. Sur 7 minutes 10, c'est très très précis. Merci beaucoup. Préciser peut-être herméneutique, l'interrogation du sens qui n'est pas forcément visible. L'exégèse, c'est plus la technique du texte.
Alors en fait, l'herméneutique, c'est effectivement le principe même de l'interprétation. C'est-à-dire un rapport interprétatif au texte. Quant à l'exégèse, c'est effectivement l'effort, l'application individuelle, dans le meilleur des cas, pour produire du sens qui n'a pas déjà été identifié par les précédents ou les contemporains.
Donc c'est la perspective. C'est pas clair, hein?
L'herméneutique, c'est la tradition interprétative.
Oui,
la tradition interprétative telle qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on peut s'informer sur des corpus de textes. Alors que l'exégèse, c'est la dynamique de l'interprétation. C'est l'herméneutique en tant qu'elle est vivante.
Merci. Pierre-Éric, si on prend l'ordre
d'apparition.
Voilà,
je suis le petit frère. Hein. Au propre comme au figuré.
Tu verras quand tu auras notre âge.
Vas-y.
Alors, peut-être un élément de contextualisation historique dans la vie de l'Église catholique. On est l'héritier d'une réforme qui a 50 ans, qui était initiée par le Concile Vatican II. Et j'aime à dire que cette réforme a pour objectif de mettre la Bible entre les mains de tous les baptisés, ce qui n'était pas le cas pour la génération de ma grand-mère, pour prendre un point de repère objectif. Ma grand-mère que j'ai enterrée il y a 2 ans, elle avait plus de 100 ans, et elle a découvert vers 80-85 ans la Bible. Alors elle me posait des questions, elle me disait « Mais t'as déjà lu ça ?» J'ai dit « T'inquiète pas. Mais t'enseignes ça à tes étudiants ?»« Oui, t'inquiète pas. » Et donc la question, c'est pas de savoir comment était la vie chrétienne avant, mais c'est de se dire aujourd'hui, il est évident qu'il ne peut pas y avoir de vie croyante dans l'Église si les gens n'ont pas un accès facile, nourri, abondant à la lecture de la Bible, qui est donc considéré comme avec un double héritage, un héritage le plus ancien, celui des pères de l'Église qui ont fondé des herméneutiques On va y revenir. Et puis un héritage plus récent, dont les pogroms commencent au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui est ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, plus scientifique. Et ça nous fait considérer la Bible comme un monument de foi et littéraire. Et un monument littéraire et un monument de foi. Et si on fait tomber l'un des deux, il y a quelque chose de notre approche de la Bible qui ne correspond pas à ce que nous croyons. Puisque un des éléments clés de la foi chrétienne, c'est de professer que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et il y a dans ce vrai Dieu, vrai homme, et dans la Bible, et monument littéraire, et monument de foi, une analogie qui se nourrit réciproquement. Et que dans ce monument de littéraire, on va commencer par ça, ben on prend la Bible pour ce qu'elle est, c'est-à-dire 1000 ans de littérature. 1000 ans de littérature française, ben on commence avec Tristan et Iseult, et on finit avec le nouveau roman, et puis vous prenez 1000 ans de littérature, vous prenez des romans, vous prenez des pièces de théâtre, vous prenez des poèmes, vous prenez de la littérature de gare, parce que tout n'est pas de la bonne littérature dans la Bible, voilà, même si c'est de la bonne foi, c'est pas tout de la bonne littérature. Vous prenez des collections de lettres, vous prenez des notes d'étudiants, vous prenez... Voilà, et la Bible, c'est tout ça. Et une des notions clés que met en avant le Concile Vatican II, suite à tout cet héritage de travail historico-critique, c'est de dire... Un texte doit être lu en tenant compte de son genre littéraire. Le premier chapitre de la Genèse est un poème, et vous ne demandez pas à un poème ce que vous demandez à une lettre d'Einstein expliquant sa dernière découverte. Voilà, le genre littéraire est vraiment la notion clé par laquelle aujourd'hui, dans les chrétiens, parce que alors là, sur ce point de vue-là, catholiques et protestants, il n'y a pas de différence, nous abordons le texte biblique. Ce qui fait l'unité de tout cela, toujours du point de vue littéraire, mais du coup ça va nous faire passer au monument de foi, c'est cette notion d'alliance. Tous ces textes finalement essayent de nous dire une alliance possible entre Dieu et les hommes. Alors de la questionner, de la rendre possible, de l'affirmer possible, enfin il y a beaucoup de positionnements. Il y a des textes qui ne sont pas du tout concordants là-dessus. Hein. Un exercice assez facile à faire en initiation à l'écriture, c'est de mettre deux textes de Jacques, un de Jacques et de Paul, et puis de poser la question aux étudiants, lequel n'est pas dans le Nouveau Testament ? Et ça, ils ont tout de suite une avis très tranché, ils disent exactement le contraire l'un de l'autre. Donc il suffit de les regarder, et voilà. Donc, par rapport à cette alliance, ils ont pas, il n'y a pas un regard unanime, mais c'est quand même le fil conducteur de la Genèse à l'Apocalypse, de tout cet ensemble. Monument de foi, bah c'est justement parce que tous ces textes-là nous apprennent à vivre une relation d'alliance avec Dieu. Et pour les chrétiens, cette alliance, elle se spécifie dans une relation filiale avec celui qu'on a le droit, la chance, la grâce, la faveur d'appeler Père, tout simplement. Et ça, pour les chrétiens, la Bible, c'est une expérience du Christ. L'adage de Saint Jérôme, repris par Luther, heureusement repris par Luther, mais il remonte à Saint Jérôme, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Donc la conviction que... Lire l'Écriture, c'est faire l'expérience du Christ, en ce sens que, alors c'est vrai pour la Torah, les prophètes et les écrits, Jésus les a lus. Ça a façonné l'humanité de Jésus. Et saint Paul a une expression que je trouve très importante, l'Écriture est un pédagogue qui nous conduit au Christ. À partir du moment où Jésus... s'est mis à l'écoute de son propre père en lisant les psaumes. Quand le matin j'ouvre mon psautier et que je prie un psaume, et ben je peux me laisser conduire jusqu'à vivre l'expérience qui fut celle de Jésus. Donc toute l'écriture comme expérience du Christ. Et donc on a une deuxième potentialité de signification, et là les pères de l'Église sont extrêmement précieux, parce que c'est vraiment en cela qu'ils ont été fondateurs d'une tradition, de dire... toute l'écriture nous permet de rencontrer le Christ. Ils sont aussi fondateurs en ouvrant une deuxième possibilité de signification, qu'on va appeler le sens moral de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture permet de découvrir l'homme selon le cœur de Dieu. Le portrait de l'homme tel que Dieu l'a toujours voulu, rêvé, avec toutes les impasses dans lesquelles on peut avoir. Et que cette expérience de lecture... Alors, savante quand il s'agit de travailler, mais cette expérience de lecture, surtout savoureuse, hein, les protestants ont une belle expression, la lecture au pied du lit. Voilà, celle qui termine la journée, ou qui la commence, ça dépend, chacun vit. Mais la lecture au pied du lit dans la tradition protestante, c'est vraiment celle qui termine la journée. C'est celle qui nous façonne, c'est celle qui nous purifie le cœur, ou pour reprendre une expression du prophète Jérémie, celle qui donne la circoncision du cœur. On trouve cette expression aussi dans le Deutéronome. Le cœur, c'est une cavité qui permet à la parole de Dieu de faire écho dans la vie de l'homme. Et un violon, un instrument en musique, s'il y a une imperfection, ça sonne faux. Et donc, il y a une incirconcision qui fait que notre cœur sonne faux, pas en harmonie avec la parole de Dieu. Lire l'Écriture, c'est faire cette circoncision du cœur qui permet de retrouver l'écho avec la...
Pardon.
J'ai dépassé mon temps.
Je suis désolé. Oui, oui, mais...
Non, mais juste une minute.
Je voulais l'arrêter.
C'est violent. J'avais... C'est pas grave. Et juste...
C'est pas concis quand...
30 secondes. La dernière possibilité de signification, c'est quand on ferme le livre et quand on goûte la parole. C'est-à-dire que le livre n'est pas tout dans la vie chrétienne. Autant je crois qu'il est indispensable de le lire, mais à un moment il faut le fermer. Le fermer pour méditer, le fermer pour goûter, le fermer parce que ces hommes qui l'ont écrite en se laissant saisir par l'Esprit de Dieu ont posé des traces. Et à un moment, il faut suivre les traces dans la méditation. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas redire ?
Oui, exactement.
Voilà. Mais on sait qu'il y a une limite. Si je prolonge de 2 minutes, je lui coupe son truc.
Ton temps, c'est le mien.
Merci bien.
Alors, que dire après ces belle présentation, riche dans la forme que dans le fond. D'abord dire que l'islam se présente comme la religion du livre par excellence, bien qu'elle reconnaisse à ses deux grandes sœurs la notion de Jean du livre. C'est d'ailleurs comme ça que l'islam appelle, le Coran appelle le christianisme et le judaïsme. Pourquoi je le dis cela ? Parce que il est d'abord dit dans le Coran que le premier verset révélé au prophète, c'est récite, lis. C'est une scène qui se passe dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira, dans laquelle le prophète a reçu la révélation. Où il nous est présenté, c'est-à-dire le prophète, comme étant sous les ordres de l'archange Gabriel, qui le somme de lire, et lui dit « je ne sais pas lire ». Et c'est là tout le commencement du Coran. C'est que cette notion de lecture, elle est fondamentale. Et le prophète, bien plus tard, dira « chaque communauté recevait de la part de Dieu » l'exemple, ou plutôt quelque chose qui pouvait faire concurrence à ce qu'elle maîtrisait le mieux. Et par exemple, on dit que quand le Christ a été envoyé au peuple d'Israël, c'est comme ça que l'islam présente les choses, eh bien, c'était une période où, dans le monde, la médecine dominait, et qu'il fallait, pour cela, pour vaincre la médecine, pour montrer que Dieu était au-dessus de la médecine, eh bien que Jésus ait des miracles de nature à dépasser ce que l'homme, de par la médecine, était capable de faire. On dira la même chose de Moïse, avec le bâton, etc. Le but était, disent les traditions musulmanes, de faire en sorte qu'il y ait une correspondance tout le temps entre ce avec quoi le messager va venir et, bien entendu, ce que vivaient les personnes auxquelles il était envoyé. Et lui, il dira, et moi, on m'a donné un livre. Et ce terme est d'autant plus intéressant qu'en arabe, il est tantôt appelé kitab, tantôt appelé Qur'an. Alors, que veut dire kitab ? C'est assez marrant parce que kitab, en arabe, dérivant du verbe kataba, et en hébreu, d'ailleurs, on a la même chose avec kitab, etc., mais enfin, mon collègue, mon co-orateur le dira mieux que moi. Le terme kitab veut dire à la fois une injonction et une somme de beaucoup de choses. Donc, par exemple, dans le Coran, quand il est demandé aux musulmans de jeûner, le terme qui va être utilisé, ça va être « kutiba ». Il vous a été prescrit. Mais en même temps, quand Dieu parle du livre, il dit « ذلك الكتاب ». C'est le livre. Cela, c'est le livre. Donc, il y a cette notion de regroupement d'un ensemble d'informations dont je vais parler dans un instant, et cette seconde notion qui est celle de l'injonction, de l'adresse envoyée à l'homme. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, même si le temps que nous a imparti est très court et qu'il faut aller très vite, et j'espère que je serai aussi concis que mes deux co-orateurs, mes deux grands frères, pour le coup. Une fois cela dit, donc situer le Coran dans la notion de kitab, et cette notion de Coran, Coran, d'où vient le mot d'ailleurs Coran en français, qui soit dit en passant, signifie deux choses. Soit ça vient de Coran qui vient de Qarana, qui signifie empiler des choses, et là on retombe dans kitab, soit ça peut vouloir dire au contraire comparer. Donc, je compare une chose à une autre. Et dans les deux sens, on pourrait dire beaucoup de choses, donc peut-être on aura l'occasion de faire mention un peu plus tard. Donc, que vise le Coran exactement? Le Coran vise quatre choses. Le Coran repose sur quatre choses essentielles qui sont la notion de présentation, la notion de i'ajaz, quelque chose qui nous dépasse, la notion dite de codification, et enfin une autre notion qui est celle de la guidance. Alors je vais les prendre dans l'ordre et aller très rapidement. Guidance. Alors, présentation. Pourquoi parle-t-on de présentation? Eh bien parce que le Coran vise d'abord à parler de Dieu. C'est Dieu qui se dévoile, et c'est un peu ce qui a été dit depuis maintenant un quart d'heure par mes co-orateurs. C'est Dieu qui se dévoile à l'homme ou aux hommes, qui leur dit qui il est. D'ailleurs, il y a une très belle phrase dans les traditions musulmanes qui dit « Tu es comme tu es, nous ne disposons d'aucune connaissance de toi qui ne mène pas de toi. » En gros, on ne te connaît pas, on ne te connaît que sous les aspects que tu as bien voulu nous donner. C'est la première chose. Donc, c'est d'abord un livre de présentation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le Coran, on trouve Dieu qui parle à Moïse sur le mont Sinaï, justement, où il dit « An Allah, je suis Dieu ». Alors, ce terme « Allah » qui est aujourd'hui galvaudé, on dit « Allah », c'est un terme dont on aura l'occasion de discuter, mais qui a, selon les uns et les autres, selon les traditionnalistes musulmans, a soit un sens qui en aurait six, c'est-à-dire qu'il est dérivatif, soit il n'est pas dérivatif parce qu'il est à l'initiative ou à l'origine de toute chose. Donc ça, c'est une chose assez importante de ce point de vue-là à savoir. Donc Dieu qui se présente à l'homme, donc première chose, Dieu qui présente l'homme, qui dit l'homme comment il est. Dans le Coran, on a plusieurs passages qui nous parlent de comment l'homme a été créé, comment les cieux ont été créés. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, on trouve que le Coran ne demande pas à l'homme de croire en Dieu sur la base de miracles. Le Coran demande à l'homme de croire en Dieu sur la base des éléments de la nature qui l'entourent. Regarde le ciel, comment nous l'avons élevé, regarde la terre, comment nous l'avons créé, regarde... Enfin bref, des éléments qui d'ailleurs, sur le plan scientifique, aujourd'hui, sont assez intéressants à étudier parce que certains disent comment un bédouin qui vivait au 7e siècle a pu avoir connaissance de toutes ces informations qui aujourd'hui nous paraissent, nous sont découvertes de jour en jour. Enfin, deuxième point, c'est la notion de, donc la présentation, il y a la notion de
dépassement.
T'as déjà dépassé.
Oh là là,
c'est pas grave.
La notion de. Parce que je n'ai même pas parlé d'hermeneutique, je suis comme mon collègue. Exactement. Il y en a quatre. Alors, le dépassement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en un mot, pour faire simple, que nous ne sommes pas capables de faire autant. En gros, c'est le livre de l'excellence, tant dans la forme que dans le fond. Et que personne ne peut égaler.
Donc c'est cette notion dite de erjaz, le dépassement, c'est que ça, c'est au-dessus de nos moyens. Troisième point, c'est celui de la codification HD, c'est-à-dire qu'il se trouve l'équivalent de la Torah, par exemple, chez nos frères juifs, c'est-à-dire un code qui repose sur à peu près 150 ou 200 versets, sur une somme de 6235 versets. Et enfin...
code, c'est la loi.
Oui, ce qu'on appelle firtre par la suite. Alors, ça a été réduit au terme shalira, mais c'est des termes que nous aurons bien entendu l'occasion d'aborder ensemble. Et enfin, nous avons cette notion de hidayah, la guidance, qui veut dire en un mot que Dieu a envoyé tout cela à l'homme pour le conduire sur son chemin. Donc en gros, c'est les buts, les objectifs suprêmes du Coran. Moi, j'ai d'autres objectifs que j'ai découverts dans le Coran à travers ma lecture, mais on aura l'occasion d'échanger là-dessus, qui sont au nombre de 5, mais je ne vais pas vous en parler ici, sauf si des questions se posent. Et puis, il y a l'herméneutique qui repose sur 11 sciences, dont l'exégèse. Alors là, on aura l'occasion d'en parler. Comme j'ai dépassé mon temps, je m'arrêterai là en vous remerciant pour votre attention.
Merci, Mohamed.
Bon. Moi, je suis en train de m'aller passer s'imposer parce que c'est quoi pour vous, c'est quoi pour vous.
C'est clair, mais on a encore du temps. On va rentrer dans le vif du sujet, justement, sur un texte. Et le texte qu'on vous avait proposé, qui est le texte de la libération d'Israël ou du sacrifice d'Abraham, selon comment on l'appelle. De sorte de rentrer dans le concret, justement dans la matière de cette exégèse, de cette interprétation qu'on peut activer sur le texte sacré. Je propose de tout bêtement de reprendre le même ordre. Donc si vous voulez bien, Monsieur Ravin, démarrer.
Que nous disposons de très peu de temps, je ne vais pas vous lire le texte. Je vais juste le résumer.
Le résumé en tout cas.
Moi je peux pas le lire, mais ça peut se faire.
Ce serait bien de le lire.
Ce serait bien de le lire.
Tu n'es
pas très très.
Ça n'a pas de sens. Alors c'est dans la Bible.
Ça dépend, mais d'abord je comprends. En version.
Petit exemple de
version soft.
Ce ne sera pas pris sur le temps.
Est-ce que tout le monde voit à quel moment la. Texte sacré,
c'est le chapitre 22.
Genèse 22. Genèse 22.
Voilà. Tu lis un petit coup.
Au moins les 12
premiers
versets.
Au moins les 12, oui. Merci.
Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il reprit, prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste, il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste, en chargea son fils Isaac, il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux allèrent ensemble. Isaac parla à son père, Abraham. « Mon père, dit-il, et Abraham répondit, me voici mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches, où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris dans les cornes, dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur voit. Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur a vu.
Merci.
Alors, la tradition rabbinique se situe de la manière suivante par rapport à ce passage important du narratif biblique souvent qualifié en effet de sacrifice d'Isaac. Alors en fait, en hébreu, on a l'expression Akedat Yitzhak, qui veut dire la ligature d'Isaac. Il n'est donc pas question de sacrifice dans cette expression. Et l'herméneutique contemporaine met en évidence la possibilité d'une double erreur dans les interprétations qui sont communément données à ce passage. En fait, l'idée fondamentale, c'est qu'il s'agit non pas de sacrifice, mais d'une épreuve. Il arrive après ces événements que Dieu éprouve Abraham. Épreuve et non pas sacrifice, c'est une épreuve de surcroît pour Abraham et non pas pour Isaac. Ça, c'est le premier point. De là, deux questions se posent. La première, c'est en quoi Abraham devait-il être éprouvé? Et en quoi cette épreuve, deuxième question, ne concerne pas Isaac? Alors, arrêtons-nous un instant sur la notion de mise à l'épreuve d'Abraham. Il y a dans le traité des Maximes des Pères, qui est en fait un traité du Talmud, qu'on appelle le traité Avot, au chapitre 5, cette remarque. Abraham fut soumis à 10 épreuves. En hébreu, une épreuve se dit Nisayon, donc à 10 Nisayonot, et il triomphe de toutes. Cela nous prouve combien son amour pour Dieu était grand. Il y a un commentaire de Rashi qui est assez important. Rashi, c'est vraiment le commentateur de référence, commentateur du XIe siècle, qui était d'origine française, il habitait à Troyes, en Champagne. L'idée fondamentale, c'est que, quel que soit l'être humain considéré, Abraham, Israël, vous ou moi, eh bien, nous avons reçu la vie comme un don gratuit de la part de Dieu. Mais qu'à un moment donné, dans notre parcours existentiel, nous allons rencontrer des épreuves, connaître des épreuves. Épreuves au sens hébraïque, c'est-à-dire Nisayon, et sans la connotation dramatique ou d'affliction ou de peine que connaît le terme en français. Une épreuve, c'est dans la perspective hébraïque, une preuve à faire. Une preuve à faire du mérite que l'on a acquis au cours de son existence, susceptible de justifier le don gratuit de la vie. Donc, en sorte que l'idée d'épreuve ici va se comprendre bel et bien dans la perspective de l'interpellation d'Abraham. Ça va m'amener à expliciter un certain nombre de choses. Dans la perspective hébraïque et rabbinique, un enseignement du Talmud nous rappelle, c'est le traité Sanhedrin 107, page 107b, que les trois patriarches, Abraham, Israël et Jacob, ont été mis à l'épreuve, chacun dans l'ordre de sa vertu propre. Je cite le texte de mémoire. Ce qui indique qu'on a, si vous voulez, une sorte de tableau de correspondance entre chacun de ces patriarches et une vertu qui lui est spécifique. Abraham, on le sait sans doute, incarne véritablement la vertu de charité, en hébreu le chesed. Yitzhak, quant à lui, incarne la vertu de la justice stricte, ou encore de la rigueur, en hébreu le din, c'est un mot qui est d'ailleurs proche de ce qu'on trouve en arabe. Jacob, quant à lui, incarne la vertu de la vérité morale. La vérité morale, ou encore la vérité tout court, en hébreu emet, qui est dans la hiérarchie des valeurs bibliques, l'incarnation de l'unité des valeurs. Donc le Emet de Jacob synthétise en quelque sorte à la fois la rigueur de Yitzhak et la charité d'Abraham. Donc les 10 épreuves d'Abraham, dont il est par ailleurs question préalablement, puisque là il s'agit de la 10e épreuve, il s'avère, et c'est Rashi qui l'explicite, que sur les 10 épreuves, par 9 fois d'abord, Abraham a été éprouvé sur le chapitre de sa vertu de charité. C'est-à-dire qu'il était à chaque fois question de l'interroger sur la question de savoir si, oui, résolument, la charité était bel et bien sa vertu, et si dans les épreuves qu'il subissait, cette vertu de charité n'était pas mise en échec. Donc 9 épreuves sur 10 interrogeaient la vertu de charité d'Abraham. La 10e épreuve, qui est celle de la Kedat Yitzhak, en fait, représente en effet une épreuve tout à fait distincte qui s'adresse cette fois-ci à une autre dimension possible d'Abraham, à savoir la question, est-ce qu'il est capable de se mesurer aux critères de la rigueur, du din. Le din, c'est-à-dire l'injonction, sacrifie ton fils. Et comme on le voit, grâce à la lecture qui nous a été faite pour nous remémorer le texte, le passage en question se termine par le verset 12, où Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu es craignant Dieu. C'est-à-dire que maintenant que tu as passé l'épreuve, la mise à l'épreuve de ta personnalité entière, allant jusqu'à imaginer que tu puisses m'offrir ton fils en sacrifice, et donc que tu t'es soumis aux critères de la vertu de rigueur, alors que toi tu es toute charité, eh bien je sais maintenant que tu es craignant Dieu. Donc voilà l'interprétation et l'horizon de sens de ce passage, en sorte que finalement, la mise à l'épreuve d'Abraham au moment de la dixième épreuve, c'est véritablement le moment où finalement se fait le lien entre les deux premiers patriarches, c'est-à-dire entre Abraham et Israël, son fils. En sorte que Isaac lui-même est confirmé dans ce contexte-là, dans sa vertu de patriarche, incarnant la vertu de digne, de la rigueur stricte. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. En fait, Israël sait, en son fort intérieur, on en a quelques attestations par les quelques mots qu'il prononce et dans que le texte nous restitue, qu'il doit lui aussi justifier le don de l'être reçu. C'est-à-dire, comme tout être humain, justifier du don de la grâce de vivre. La question est de savoir à quoi Israël est prêt dans ce contexte. En réalité, il n'est pas prêt au sacrifice. L'épreuve d'Israël consiste dans le fait d'être tout simplement être prêt au sacrifice éventuel, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire d'avoir envisagé la possibilité même d'être sacrifié et par la même d'assumer cette dimension de la rigueur, fait que c'est cette préparation, cette disposition qui le sauve, au sens où non seulement il sauve sa vie, mais où il atteint le salut, ce qui est de lui, compte tenu du fait de ce qu'il représente d'un point de vue moral et symbolique. Donc on voit bien que la notion de Akedat Yitzhak, c'est-à-dire de ligature Yitzhak, signifie tout simplement que cette épreuve a littéralement ligoté, attaché la rigueur d'Yitzhak à l'unité des valeurs. Il ne faut pas oublier que dans la perspective hébraïque et juive, la consécution des patriarches et des matriarches, dans l'ordre généalogique, correspond à ce qu'en hébreu on appelle les toladot, c'est-à-dire les engendrements. Les engendrements ne sont pas simplement la succession des générations, mais désignent plus précisément le fait que la consécution des générations mène, au bout du compte, à une humanité accomplie. Voilà le sens de la Akedat Yitzhak.
Merci de votre attention. Merci. On prendra du temps pour les questions ensuite. Je propose qu'on déroule les trois interprétations, enfin, les trois approches, pour prendre le temps des questions ensuite. Donc, Eric, si tu veux bien.
Oui, merci bien. Ensuite. D'abord, quelques chrétiens qui prennent ce texte, il est en général assez horrifié, disant comment c'est possible que Dieu puisse demander cela. Et l'explication, enfin, l'interprétation, l'exégèse qui vient de nous être proposée en restituant ça dans l'itinéraire d'Abraham est une ligne aujourd'hui qui est présente pour essayer de rendre compte de cet épisode de la vie d'Abraham comme un aboutissement qui permet la résolution et l'arrivée à cette affirmation « Maintenant, je sais que tu crains Dieu ». Enfin, on vient d'en avoir l'explication. D'autres manières d'aborder le texte vont, avec ce que je disais tout à l'heure, prendre en compte ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. On regarde le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, on va commencer par tourner autour du texte. Tourner autour du texte, ça veut dire prendre acte que dans la Bible, Dieu a une sainte horreur, et pire encore, à l'idée même qu'on puisse sacrifier des enfants. Il y a une fois, c'est Jérémie au chapitre 7, le verset m'échappe, c'est vers 30 ou 31, où il dit « Je ne vous l'ai pas interdit parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit. » Voilà, je n'ai pas pensé que ça pouvait vous venir, vous, à l'esprit, de faire ce genre de choses. Et la Bible fait un procès assez vigoureux aux nations qui environnent Israël quant à cette pratique du sacrifice d'enfants, même si les archéologues aujourd'hui doutent un tout petit peu de l'abondance de ces pratiques. C'était plutôt des rites sur les enfants mort-nés que des sacrifices d'enfants réellement. Et donc dans ce contexte, qu'est-ce qui est demandé à Abraham ? Pourquoi lui demander de faire quelque chose qui est en horreur ? Si on reprend l'itinéraire d'Abraham, la promesse qui lui a été faite, enfin une des promesses qui lui a été faite, une terre, une protection et une descendance. Donc enfin, il a Isaac. Et il semble, en lisant le texte, que ben, Abraham est prêt à offrir ce qu'il a de plus beau. Et que l'itinéraire qu'il fait durant ce texte, c'est pas tant de lever, enfin le geste de foi, même bien que le mot ne soit pas employé dans ce texte, le geste de foi, c'est pas tant d'avoir levé le couteau sur son fils que d'avoir posé le couteau. C'est-à-dire d'avoir accepté la deuxième intervention de Dieu et d'accepter que Dieu se révèle autre que l'image qu'il se faisait de lui. Et pour ça, il a fallu qu'il soit mis dans cette situation paradoxale que le texte souligne. Par exemple, une des choses les plus simples, sans rentrer dans les problèmes de traduction, sur qu'est-ce que veut dire exactement la phrase que Dieu demande. Mais il dit au servant, je vais aller offrir le sacrifice et nous reviendrons. Il y a qui ? Il y a lui et l'enfant. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il est dans une situation paradoxale et il accepte de tenir cette situation paradoxale jusqu'au moment où l'intervention de Dieu vient résoudre la crise pour offrir non pas un enfant, mais offrir un bélier, symbole de paternité. Et donc l'itinéraire qu'Abraham accomplit, et c'est vraiment le terme de son itinéraire, c'est d'accepter que cet enfant, ça ne soit pas lui qui puisse l'offrir à Dieu, mais c'est Dieu qui le lui est donné. Et derrière l'image du bélier, il y a une image de la paternité qui l'immole. Et donc, c'est un autre rapport entre Dieu et Abraham qui se noue. C'est plus un Dieu qui réclame le prix pour avoir le droit de vivre, c'est un Dieu qui donne la vie, qui donne le Fils. Alors, on pourrait continuer et faire une exégèse bien plus précise encore de ça, mais pour moi, me semble essentiel de voir l'itinéraire que fait le patriarche qui accepte que Dieu ne corresponde pas à l'image qu'il se faisait de lui. Je crois que c'est ça la foi. C'est saint Paul, dans la lettre aux Galates, qui va être le premier à parler d'Abraham comme étant le père des croyants, ou plus exactement pour dire les fils d'Abraham, ce sont les croyants. Et je pense que c'est là la leçon de foi que qu'Abraham nous donne, accepter que Dieu ne corresponde pas à l'image que l'on se fait de lui, qu'il est plus grand que cela. Dans la tradition chrétienne, on va se servir de plusieurs expressions de ce texte, dans la tradition évangélique, on va se servir de plusieurs expressions de ce texte, notamment « ton unique ». Et à chaque fois qu'on parle de Jésus comme étant l'unique, il y a une réminiscence plus ou moins lointaine à ce texte-là, et donc de faire un lien entre la mort de Jésus en croix et cet épisode. Avec du coup des choses qui viennent surrajouter à la cruauté de Dieu, alors que justement le texte veut nous en dégager. Un père de l'Église, c'est Origène, qui est le premier à vraiment avoir été explicite pour faire une mise en parallèle entre Jésus et ce texte-là, il fait le lien de deux façons. Il dit Jésus ressemble à Isaac parce qu'il n'a pas été immolé, mais que Jésus est vivant pour l'éternité. Et le bélier ressemble à Jésus parce que Jésus est mort sur la croix. Mais Origène tient la double comparaison. De dire Jésus ressemble et à Isaac et au bélier. Et ça, c'est significatif pour ce sens christologique dont je parlais tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'aller chercher une petite bête à un endroit. Il y a une petite chose qui permet de faire le lien. Ce n'est pas des éléments atomistiques. On fait correspondre des singletons les uns aux autres. C'est un mouvement d'ensemble. Ce texte nous dit qu'il y a un passage de la foi d'une image de Dieu à une autre. La croix, la mort du Christ, est le lieu où Dieu se révèle tel que nous n'avons jamais pu l'imaginer. En tout cas, pour la tradition chrétienne, c'est un moment absolument essentiel dans cette démarche. Donc le sens christologique de ce texte-là doit être pris de manière très complexe et absolument très complexe au sens de complexion des choses. et absolument pas pour re-rendre compte de l'idée d'un Dieu qui réclamerait la vie pour pouvoir... Non, c'est celui qui donne la vie, de manière fondamentale. Et puis dans l'évangile selon saint Jean, il y a eu une interprétation alors qui va être plus morale et plus large sur la vie d'Isaac, sur la vie d'Abraham. Dans l'étymologie hébraïque, ça veut dire Isaac, ça veut dire Dieu m'a fait rire, Dieu m'a donné sujet à rire. Parce que quand Dieu est arrivé en Genèse au chapitre 18 en promettant à Sarah qu'elle aurait un enfant au printemps prochain, elle a justement souri en disant qu'elle était un peu âgée et que son maître n'en pouvait plus. Voilà, comme quoi les choses étaient illégalement dites. Et donc voilà, le nom de Isaac. Et Jésus est dans une discussion un peu vigoureuse et, au sujet d'Abraham. Il dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». Alors dans la tradition pharisienne, on disait plutôt « réjouir » que « rire ». C'était, le rire, c'est pas sérieux par définition. Et donc l'interprétation que Jésus propose, c'est de dire « qu'est-ce qui a fait se lever Abraham ? Qu'est-ce qui l'a mis en avant depuis Ur en Chaldée jusqu'à arriver là au Mont Moria ?» C'est de me voir, moi. Et donc l'idée selon laquelle c'est Jésus qui met l'homme de foi en avant. Ça, c'est une autre piste de réflexion. Puis une troisième, moi, que j'aime bien aussi, c'est de jouer sur le mot Moria. Moria, c'est en hébreu un participe présent, c'est Dieu a fait voir, Dieu m'a donné à voir. Et le texte joue beaucoup sur le verbe voir. Dieu saura voir le sacrifice, dit Abraham. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 3, verset 1, on nous dit que le temple est construit sur le mont Moria. C'est la seule autre fois qu'on nous parle de ce mont Moria. Et donc on fait de ce récit-là, ce qu'on appelle en termes de sociologie des religions, un texte étiologique qui rend compte de la légitimité du culte. Pourquoi adore-t-on à Jérusalem ? Parce que c'est le mont Moria. Et que donc le culte à Jérusalem réitère démarche d'Abraham, cette démarche de foi, par laquelle il va offrir un bélier, qui est une action de grâce, une reconnaissance des dons que Dieu donne. Je vous remercie.
Merci, Eric.
C'est parti. Alors, cette histoire, elle est. J'ai été très content de voir que tu as choisi ce texte parce que. Il a la particularité, peut-être plus que d'autres, d'être trans-religieux, parce que le récit est présent dans les trois religions monothéistes, qui, pour le coup, montrent chacune à sa manière son appartenance au patriarche Abraham, qui est considéré comme le début, le pilier. Et d'ailleurs, en islam, il est dit qu'il est celui qui a appelé les musulmans ainsi. Qui les a appelés musulmans, voulant dire pacifiques, soumis et tout ce que vous voulez derrière. Même si je ne suis pas très en phase avec le terme soumis, parce que ce n'est pas du tout le sens arabe, ni le sens proto-sémitique dont je parlais tout à l'heure en rigolant. Alors, comment les choses se présentent-elles ? Déjà, il y a une confusion, ou plutôt... un débat entre les théologiens et les exégètes musulmans sur la nature de l'enfant à sacrifier. Était-ce Isaac ou Ismaël ? La majorité dit que c'est Ismaël.
Ismaël qui est le fils
qui est le
de
fils
la servante.
Ouais, exactement.
Qui est né avant Isaac.
Exactement. Alors, et je vais y revenir dans un instant. Alors, les uns disent que c'est Ismaël, la majorité, et les autres disent que c'est plutôt Isaac. Cette deuxième version, cette seconde version, n'est pas très connue des musulmans. Alors, s'il y a des musulmans parmi vous, sachez que ça existe dans les traditions, qu'il y a ce débat très ancien. Ce qui est assez beau, c'est que, contrairement à nous, les théologiens musulmans d'autrefois n'avaient pas peur de donner tous les avis. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Chacun essaye de prêcher en faveur de sa mosquée, pour ne pas dire sa chapelle. Donc ça, c'est le premier point. à savoir le deuxième point, donc quel que soit l'enfant que vous aurez pris, il est rappelé que c'est un enfant qui aura été élevé par sa mère toute seule. Parce que Dieu nous rappelle dans le Coran, dans un récit très long, que Abraham a eu énormément, a mis énormément de temps avant d'avoir un enfant, ça c'est dans les traditions, et que quand il l'a eu, il avait plus de 120 ans passés, et que quand il a reçu l'ordre de l'abandonner avec sa mère, de l'amener cette fois-ci plutôt dans les traditions musulmanes à La Mecque, qui est considérée comme la ville, dans le Coran, la mère des villes, Umul Qura, c'est comme ça que le Coran l'appelle, et où il reçoit l'ordre de l'abandonner. Abandonner son enfant avec sa femme. Alors, ceci me permet de vous dire que tout le rite du pèlerinage en islam est abrahamique. Ça n'a rien à voir avec le prophète Mohammed comme porteur de message. Tout est en lien avec Abraham, et c'est pour cette raison que rien ne se fait là où le prophète a été enterré, en l'occurrence Médine, mais plutôt tout se fait à La Mecque. Donc il l'abandonne avec sa femme pendant, et il n'y revient pas pendant 13 ans. Les traditions disent que c'est à l'âge de 13 ans qu'il vient pour le sacrifier. Et quand il arrive, il ne le reconnaissait même pas. Et la ville était devenue une grande ville. D'ailleurs, ça a donné naissance à une forme, à une tribu nouvelle d'Arabes. Parce que dans les traditions scientifiques et linguistiques, on parle de trois types d'Arabes. Il y a ceux qu'on appelle les Arabes anciens qui ont disparu, ces deux grandes tribus qui s'appelaient Aad et Thamoud, qui habitaient le Yémen. Et ensuite, eux ont donné naissance à ceux qu'on a appelés par la suite El Arab al-Khullas, entre guillemets les Arabes purs, qui avaient 9 tribus, dont une, après une catastrophe naturelle, a dû émigrer en direction du nord de la péninsule arabique. Et il se trouve que c'est là où le lien intervient entre Ismaël et ces Arabes, c'est que quand ils arrivent dans cette contrée, ils trouvent une femme, en l'occurrence Agar, la mère de d'Ismaël, avec un enfant et avec eux une source d'eau. Ils demandent l'autorisation de rester avec eux, et l'autorisation leur est accordée à condition qu'ils ne se mêlent jamais de la gestion de l'eau. Il reste, Ismaël grandit avec eux, un terme arabe naît qu'on appelle al-Isti'arab, c'est-à-dire qu'il a été arabisé, parce qu'il a appris l'arabe avec eux. Ainsi, ceux qui naissent dans ce coin de l'Arabie, on les appelle al-Arab al-Musta'arab, c'est les Arabes arabisés. Entre guillemets, si on devait parler en des termes un peu puristes, mon collègue linguiste, bon, c'est pas un terme qu'on aime trop, mais si on devait parler de vrais Arabes, ce seraient les Arabes partis du Yémen, et ceux-là seraient les Arabes arabisés. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc Ismaël grandit avec ces gens-là, s'arabise, si je puis m'exprimer ainsi, jusqu'à l'âge de 13 ans, Abraham, absent, revient et trouve une ville qui avait déjà poussé à l'endroit où il n'y avait qu'un désert. Le Coran le dit, Seigneur, j'ai abandonné ma famille dans un désert où il n'y a rien qui pousse. Il a fait, en tout cas selon le Coran, il a fait une invocation pour que Dieu fasse de cet endroit un endroit où les gens viendraient, pas en pèlerinage, mais qui serait un carrefour commercial. C'est peut-être pour nous le fait qu'il y ait du pétrole, comme beaucoup de pétrole aujourd'hui en Arabie Saoudite. Mais ils s'en sont accaparés alors que ça devrait appartenir à tout le monde. Mais ça, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'au bout de 13 ans, il vient, il demande à voir cet enfant. Et là, une scène assez intéressante intervient entre lui et Agar, parce qu'il demande à tuer l'enfant. Et alors, comment ça se présente en islam? C'est sous la forme d'un rêve. Notamment, vous pouvez regarder le chapitre 37, verset 103 du Coran, où justement Dieu, ça s'appelle le sourate Saffat, Dieu raconte toute la vie d'Abraham, comment il a commencé en cherchant Dieu, jusqu'à ce qu'il soit obligé, après avoir été jeté dans le feu, de fuir la ville où il est né, quand il en arrive là, il demande à Dieu de lui donner un enfant, et c'est comme ça que le Coran présente la chose. Et quand il le reçoit, eh bien Dieu lui dit, voilà, lui envoie le test, et on a des choses assez proches de ce qui a été dit dans les deux traditions. À ceci près que on dit en islam que, en fait, l'examen n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est un examen qui est adressé aux deux. Dieu teste Abraham comme il teste son fils. Comment teste-t-il Abraham ? Eh bien, il le teste par rapport, comme le dirait Toustali et d'autres parmi les exégètes soufis, que, en fait, quand Dieu dit « Watallahu lil jabin » et il l'a allongé, parce qu'une des choses que la mère va demander à Abraham de suivre au moment de l'exécuter, c'est que il fallait trois choses en réalité pour aller vite. Il fallait qu'il aiguise bien le couteau. Deuxième chose, il fallait qu'il l'allonge sur le ventre pour éviter que ses yeux, leurs yeux ne se rencontrent, auquel cas il serait pris de pitié et éviterait ainsi d'exécuter l'ordre de Dieu. Et puis troisième chose, il ne fallait surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé. Alors, Abraham vient pour l'égorger, mais il lui dit, et c'est là où ça devient intéressant, il lui dit « Et Abunaïd ?» Et c'est comme si en français on disait « Oh toi, fiston !» C'est qu'il y a un terme affectif qui s'installe, et il lui raconte ce qui s'est passé. « Inni ara fil manami » « Je vois en rêve ». Et en islam, le rêve d'un prophète, c'est comme une révélation. Sauf que il n'a pas cru le rêve, ou il n'a pas cru au rêve la première fois. Ce qui fait que le rêve s'est fait une deuxième fois. Et dans le pèlerinage, le huitième jour du mois de Dhilhijja, du mois du pèlerinage, s'appelle Yawm al-Tarwiyah. C'est un jour de doute. Parce qu'Abraham ne savait pas exactement de quoi il en ressortait. Est-ce vraiment un ordre ? Ou c'est plutôt un cauchemar? Et c'est le troisième jour où, donc on appelle Yawm Arafah, c'est le jour où les pèlerins se rencontrent sur le mont Arafah, c'est une monticule, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des images de la Mecque, le jour où il y a 2 millions de personnes, 3 millions qui se réunissent au même endroit. Ce jour-là s'appelle le jour Arafah, qui veut dire en arabe « il a su ». Donc il a su mettre un mot sur ce que c'était véritablement, c'est-à-dire un ordre divin qu'il fallait qu'il accomplisse. Alors, il l'allonge pour aller très vite, et il cherche à, bien entendu, l'égorger. Sauf qu'avant, comme je vous ai dit, il demande à son fils, « Qu'en penses-tu ?» Et le fils, avant de répondre, il ne va pas dire « Fais-le, papa !» Mais il va utiliser également un terme assez affectif. Il ne le dira pas « Mon père », mais il dit « Papa ». Et sur le plan de l'échelle affective, ce n'est pas la même chose. Donc il dit « Ya abati »,« Oh mon papa ». Et ensuite il dit « If'al ma tu'mar ». Et c'est comme ça que le Coran le rapporte. « Fais ce qu'il t'a été demandé de faire. »« Satajiduni incha'Allah min as-sabirin » parce que tu me trouveras parmi les endurants. Et là, l'examen qu'on leur a fait passer aux deux, c'est lequel ? Enfin, l'un, Dieu cherchait à voir jusqu'où il était capable d'aller pour lui montrer combien il tient à lui. Et là, il y a un rapport de jalousie que Dieu crée entre lui et ses créatures. Et d'ailleurs, il y a un propos du prophète qui dit qu'il n'y a pas plus jaloux que Dieu. Une manière de nous tester. Est-ce que nous sommes capables, nous, de nous souvenir de l'amour qui est le sien, du fait qu'il est notre créateur, au point de tout faire, de le faire passer avant tout, ou au contraire, nous oublierons cela et irons jusqu'à faire passer ce qu'il nous a donné avant lui. Et donc c'est l'examen, c'est l'épreuve à laquelle il est soumis. Et au verset 106, Dieu dit, c'était une sacrée épreuve. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de simple que de passer cet examen. Et dans le Coran, il y a en effet ce qui a été dit au début, à savoir que Dieu a dit « Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin » Rappelle-toi quand Dieu a éprouvé Abraham, lui a fait passer des examens par une série de choses, dont celle-là en particulier. Donc, quand il l'a allongé, et là, c'est la scène de l'agneau qui apparaît, parce qu'il allait exécuter, sauf qu'au moment de le faire, tac, quelque chose lui a été dit, l'archange Gabriel est venu et lui a dit, tu as vraiment voulu aller jusqu'au bout, tu as dit vrai, tu as cru au rêve, maintenant nous te disons stop, et là la scène de l'agneau qui apparaît. Alors aujourd'hui il y a des lectures qui disent qu'en réalité, très très marginales, soit dit en passant, mais comme nous parlons d'exagérer des herméneutiques et je m'arrêterai là-dessus, il faut que j'en parle quand même, qui dit que non, en fait cette scène, et ça date ou ça remonte à Ibn al-Arabi, le grand Ibn al-Arabi dont vous entendez parler, Ibn Arabi, qui dit qu'en réalité c'était un rêve et que c'est davantage une question de symbole que quelque chose qui lui a été réellement demandé d'exécuter, d'appliquer. Alors j'ai été très agréablement surpris de voir que dans le christianisme, le fait de tuer des enfants dans les textes, je veux dire, est quelque chose de très condamné, parce que dans le Coran, on nous apprend que dans les traditions arabes, les gens tuaient leurs enfants par pauvreté. Exactement comme on apprend que les filles étaient considérées par les bédouins de l'époque comme une source de honte. Quand on annonçait à un d'eux la naissance d'une fille, son visage devenait noir. Et il hésitait entre deux choses. Vais-je l'enterrer vivante ou plutôt la garder en avanie, en étant dans une situation de honte? Et Dieu dit, dans quelle injustice se lançait-il? C'est une manière de dire que ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Et du coup, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment des points où il y a une convergence. C'est-à-dire que malgré tout ce que l'on peut dire, on voit là quelque chose qui va dans le même sens. Sauf que, comme il y a un paradoxe qui est de savoir, bah, finalement, ce que je vous demande de ne pas faire, ce qui vous est interdit, j'ai voulu vous montrer jusqu'à quel point ça l'est, parce que j'ai demandé à une de mes meilleures créatures de l'appliquer, et à la dernière minute, je lui ai dit non, tu ne fais pas. C'est une manière de dire non, vous n'avez pas le droit d'aller dans ce sens, et ainsi le Coran présente cette épreuve d'Abraham, et tous les ans, nous musulmans, nous répétons cela de deux manières. C'est-à-dire que nous refaisons la scène de deux manières, voire de trois. La première manière, c'est quand on va au pèlerinage, il y a ce qu'on appelle l'udhiya, cette notion de udhiya qui veut dire sacrifice, donc on donne de soi, et même ceux qui ne sont pas au pèlerinage, il est recommandé qu'ils, vous entendez parler d'ailleurs, du sacrifice du fameux mouton. Donc le sacrifice du mouton vient de là. Et puis, troisième manière de faire, c'est que quand on a un enfant, le septième jour, il est recommandé en droit musulman, eh bien, de faire ce qu'on appelle aqiqa, c'est-à-dire de l'équivalent du baptême, même si ce n'est pas vraiment l'expression, ce n'est pas vraiment la bonne traduction, c'est vraiment sacrifier une bête en mémoire de ce que le patriarche Abraham a voulu faire avec son fils Ismaïl ou Isaac, puisque maintenant vous savez que les deux sont admis dans la tradition musulmane. Voilà, j'espère que les 4 minutes, je les ai multipliées par 10. Mais... L'avantage de son petit frère, c'est qu'on est couvert par ses grands.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Et nous avons du temps pour vos questions, interrogations, persistements.
Il y a un point qui est commun aux trois et sur lequel chacun vous passez rapidement. C'est la crainte de nous. Dire à vous écouter, Abraham fait ça parce qu'il a.